à tous et bienvenue dans le Mag du Tarn sur CFM Radio. Alors, un magazine que je qualifie d'exceptionnel aujourd'hui, tant celui que je reçois est un artiste et un homme d'exception. Et oui, je sais, c'est, le mot est peut-être fort, mais il y a des gens comme ça qui font l'unanimité dans leur domaine et pour lesquels les adjectifs ou les superlatifs ne sont pas usurpés, loin de là. Et c'est le cas de Titouan Lamazou avec nous dans un instant, parce que Titouan Lamazou sera à Cordes sur Ciel ce samedi à partir de 17h à l'initiative et à l'invitation de Brigitte Pangrazi de la galerie Trace d'Art, la rue Raymond 7 à Cordes sur Ciel. Et Titouan Lamazou nous fait le plaisir et l'honneur d'être dans ce magazine. On le retrouve dans 3-4 petites minutes, le temps de tout caler au niveau technique. Et en attendant, un petit clin d'œil d'ici là par rapport à la conférence qu'il donnera à Cordes sur Ciel sur les peuples saharo sahéliens. Une grande dame de la région du Wassoulou, une très grande chanteuse de l'Afrique de l'Ouest, voici Oumou Sangaré. Samedi 11 juin, Titouan Lamazou sera à Cordes sur Ciel, invité par la galerie Trace d'Art, dont il est le parrain d'honneur cette année. Exposition de quelques-unes de ses œuvres, séance de dédicace et puis une conférence dans le bâtiment de la mairie de Cordes sur Ciel, la maison Font-Pérouse. Titouan Lamazou est avec nous sur CFM. Bonjour Titouan.
Bonjour.
Merci tout d'abord d'avoir répondu à ma demande d'interview. C'est un réel plaisir de vous avoir sur cette antenne. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, vous êtes, je dirais, un curieux de tout. Entre autres, vous avez été le vainqueur de la première édition de la célèbre course Le Vendée Globe. Vous êtes donc navigateur et par extension globetrotteur, écrivain, peintre, photographe, carnétiste, artiste de l'UNESCO pour la paix en 2003. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un curieux de profession ?
Je suis curieux, oui, par nature, certainement. C'est peut-être ce qui m'a effectivement fait abandonner mes études prématurément, pour partir à l'école, comme disait joliment Garcia Marquez, à l'école de la vie, et sur le chemin des voyages. Ce qui m'a conduit, chemin des voyages que j'avais emprunté dès l'âge de 18 ans avec un carnet sous le bras et quelques gouaches. Et j'avais emprunté un chemin maritime que je connaissais rien au bateau à l'époque. et je faisais du bateau stop dans les ports parce que j'étais attiré, curieux, effectivement, du monde maritime et des marins que j'ignorais. Ce qui m'a amené, quelques années plus tard, à croiser le siège d'Éric Tabarly, qui a fait de moi, si vous voulez, un navigateur professionnel pendant un temps avant que je reprenne mes pinceaux et mes appareils photos, que je poursuive ces voyages en réalité qui n'ont jamais cessé depuis.
Et depuis des dizaines d'années, vous œuvrez par vos productions artistiques ou encore par vos écrits en faveur des droits des femmes, quel que soit le continent dans lequel elles vivent. Comment est née cette volonté militante-là ?
Elle est née de l'idée la prédilection pour le choix du droit des femmes est née d'un projet, en fait, d'un projet qui s'appelait Femmes du Monde, que j'avais initié en 2001, avec l'idée qui était au départ, si vous voulez, même si c'est pas très joli comme terme, un prétexte pour sillonner le monde entier, avec un sujet fil conducteur, et je m'étais aperçu simplement que j'aimais bien rencontrer, dessiner les femmes, mais ce projet est devenu très rapidement, dès la première destination d'ailleurs, qui était la Corne de l'Afrique, un projet militant pour la défense du droit des femmes. Et ce projet Femmes du Monde est devenu une galerie de portraits de tous les multiples visages de la misogynie dans le monde. Et en général, moi, j'ai une empathie sociale qui est, je pense, naturelle. Et chaque fois que je m'intéresse à un sujet, le dernier, c'était pas spécialement les femmes, voyez-vous, c'était... Je suis retourné à Tombouctou pour retrouver des amis que j'avais connus il y a 15 ans. Et j'ai été amené pendant 4 ans à côtoyer des peuples qui ont des difficultés d'existence aujourd'hui, qui sont des peuples semi-nomades ou nomades. Et je me suis engagé auprès de ces peuples et de ce mode de vie. Je suppose que si je travaillais comme peut-être que le prochain projet sera de cette nature, c'est le mot bien choisi puisqu'il s'agira de nature et de nos amis, de nos frères que nous qualifions d'animaux. Et je m'intéresserai peut-être à cette tendance qu'ont les hommes à tout faire tourner autour de leur nombril. Et je m'intéresserai peut-être à la nature, vous voyez. Mes travaux artistiques, en général, sont liés à une... Enfin, entraînent la prise de conscience pour la défense d'une cause.
Donc une évolution à venir dans vos prochaines productions, mais je vais juste revenir sur la femme, l'importance de la femme dans vos productions. Des femmes voilées aux stripteaseuses, je crois que vous avez essayé de faire un grand écart pour montrer que toutes ces femmes ont un environnement, une histoire qui nous parle et devrait nous interpeller. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces rencontres au point d'en faire un travail visuel ?
D'abord, je suis peintre, et donc le travail visuel, c'est mon mode d'expression privilégié. Quand vous dites que je suis écrivain, je ne suis pas écrivain, bien que je publie de nombreux livres, ça ne fait pas de moi un écrivain, en revanche, je suis un artiste. Voilà. Et là, vous me parlez d'un projet qui s'est achevé en 2007, quand même, sur les femmes du monde, donc c'est assez ancien. Effectivement, je trouve pour mon travail d'artiste, le modèle de la femme, mais ça c'est pas très original, voyez-vous, parce que dans toute l'histoire de la peinture occidentale, tout au moins, les muses étaient souvent féminines, quand même, et les artistes masculins. Donc, c'est très récent qu'il y ait des artistes femmes, importantes, maintenant il y a de nombreuses talentueuses. Et voilà, donc je me suis donc intéressé, focalisé sur ces femmes, et il se trouve qu'effectivement, cet ouvrage a été important. L'exposition qui a accompagné cet ouvrage au Musée de l'Homme est une exposition importante et qui fait que, voyez-vous, on a tendance souvent à ranger les gens dans une case ou plusieurs. En ce qui me concerne, c'est déjà pas mal, c'est celle du navigateur et du portraitiste de femmes. Mais vu de mon côté, c'est un petit peu limitatif. Je suis un artiste voyageur. Voilà.
Quand vous rencontrez des femmes ou des hommes d'ailleurs, comment vous décidez du support artistique que vous allez utiliser entre le dessin, la peinture ou la photographie? Qu'est-ce qui vous pousse à choisir l'un ou l'autre?
Alors, s'il y avait un secret, c'est un bien grand mot dans mon travail, c'est que je prends mon temps. C'est-à-dire quand j'aborde des personnes, je les aborde pas, je tombe pas dessus comme ça par hasard. Tiens, voilà, je vais faire le portrait de cette personne. Je m'installe dans un village, dans une rue ou dans une famille pendant un certain temps. J'observe, je prends mon temps et à ce moment-là ça vient comme des évidences. Mais en ce qui concerne souvent, dans la grande majorité des cas, pour des raisons de justement qui est associée à cette lenteur et à une espèce de douceur d'approche, je commence par le dessin toujours parce que j'ai remarqué que si à une époque, un peu moins maintenant depuis qu'il y a des téléphones portables et que tout le monde fait des selfies et des photos, ou que ce soit, les gens étaient un peu rétifs à se laisser photographier, alors je commence par le dessin, et en revanche, ça, tout le monde, ça, en général, ça captive à la fois, ça attise la curiosité du modèle, comme ça captive l'attention des personnes qui les entourent. Et les gens sont souvent, ça les amuse, et puis c'est un mode d'expression tellement simple qu'on peut utiliser partout, qu'il y a un respect du savoir-faire aussi de la part de ces personnes, et au bout de quelques jours, je sors mes appareils photo, voire mes caméras vidéo, mais là, déjà, on se connaît. Et c'est vrai qu'en dessinant ces personnes, parfois me vient, surtout quand j'observe l'environnement de ces personnes, me vient le petit à petit, je me dis, mais ça, je vais le traduire plutôt en photographie, ça, je vais le traduire en photo, ça, je vais le traduire en dessin. Parfois, un portrait, une femme n'a pas forcément une beauté apparente, ou du moins correspondant au canon de la beauté occidentale. Et je me dis que le dessin rendra beaucoup mieux que la photo la réelle beauté de cette personne. Voilà, ce sont des critères comme ça qui viennent au gré du temps.
Je retiens prendre le temps, prendre son temps. Voilà une notion qui devrait être presque obligatoire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où tout va très vite. Titouan Lamazou est l'invité de ce magazine sur CFM. Vous restez avec nous. On va continuer à échanger, à faire connaissance ensemble et on parlera surtout de la teneur de votre visite ici à Cordes sur Ciel samedi prochain à partir de 17h.
CFM, le mag.
Titouan Lamazou est avec nous sur CFM Radio dans le MAG pour annoncer sa venue à Cordes sur Ciel le samedi 11 juin à l'initiative de la galerie Traces d'Art qui se situe au 75 de la rue Raymond 7. Titouan Lamazou est invité à cette occasion pour une conférence et une séance de dédicace. Alors la conférence portera en particulier sur les peuples saharo-sahéliens que vous côtoyez depuis de nombreuses années. Quelle lecture faites-vous de la situation politico-sociale que vit cette région depuis quelques années? Est-ce que c'était quelque chose de prévisible?
Prévisible, très certainement, parce que c'est toujours facile de le dire après, mais il y a un certain nombre, une conjonction de facteurs, dont le principal est le facteur historique. Le facteur historique, c'est-à-dire qu'on connaît mal, souvent, l'histoire de ces, pour la plupart des gens, l'histoire, je ne voudrais pas citer un ancien président, qui disait que l'histoire avait commencé, en fait, quand on a découvert que les Occidentaux se sont commencé à se promener dans ces régions, et c'est de façon assez récente, alors que ces histoires, les empires du Mali, des peuples massinins, des Sonrai, de toutes ces grandes dynasties, royaumes, empires, se sont succédés dans ces régions, et on en retrouve aujourd'hui les descendants. Il y a eu un certain nombre de facteurs aussi là, qui ont perturbé cette région, les facteurs coloniaux, et aujourd'hui il y a des nouveaux facteurs qui vont du djihadisme à l'appétence des richesses minières de la part des sociétés occidentales, des interventions inopinées, par exemple celle de la France en particulier en Libye, qui a provoqué un désastre régional dans toute la sous-région, jusqu'au Mali d'ailleurs, qui a entraîné notre intervention 2 ans plus tard au Mali pour stopper l'hémorragie qu'on avait créée nous-mêmes, qu'on avait ouvert nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je vais essayer de, dans ma conférence, expliquer. Mais la façon dont j'aborde ces régions, c'est toujours, je fais pas les grandes manœuvres, je raconte pas la grande histoire. Moi, je vais voir des gens, je vais voir Aïcha, je vais voir Mohamed, je vais voir Fatoumata, et ce sont des personnes sur lesquelles je mets un visage et à qui j'offre un vecteur d'expression eux-mêmes, parce qu'ils me racontent leurs histoires. Et je pense que c'est de nature à montrer que ce ne sont pas les Maliens ou les Touaregs, mais ce sont justement des personnes. Et pour éviter de véhiculer moi-même des bons chiffres, parce que moi je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas un chercheur, depuis un certain temps, je me fais accompagner justement, où je cherche la compagnie de chercheurs, c'est-à-dire des historiens, des anthropologues, des sociologues, linguistes, géographes, qui accompagnent parfois sur le terrain mes voyages, qui apportent leur savoir sous forme de vulgarisation dans les textes de mes livres, et c'est un mariage qui fonctionne relativement bien, parce que moi je me réserve donc l'aspect intuitif et artistique que je sais faire ou que je m'efforce de faire, et je laisse à des gens qui ont un grand savoir, qui ont étudié ces contrées depuis très longtemps dans des domaines très spécifiques, s'exprimer, et ces personnes, ces chercheurs, et qui fait que l'ensemble donne mon travail est populaire, il est apprécié d'un tout public et facile d'accès. Et parfois le travail des chercheurs peut avoir un aspect rébarbatif, et donc le mélange des deux donne un résultat, moi je trouve, assez riche.
Et c'est le cas dans votre dernier ouvrage, Retour à Tombouctou, qui est paru chez Gallimard en fin d'année dernière. Vous avez parlé de Aïcha précédemment, c'est, je dirais, un personnage clé dans cet ouvrage-là, Retour à Tombouctou, qui met en lumière le désastre que peut occasionner un conflit comme celui que vit le nord du Mali actuellement. Et on voit dans cet ouvrage, par le prisme d'une famille que vous avez rencontrée là-bas à la fin des années 90. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la particularité de Retour à Tombouctou?
Oui, c'est une histoire à la fois retour à Tombouctou, c'est mon retour à Tombouctou, 15 ans plus tard, et le retour aussi de toutes ces personnes, en 2015, de toutes ces personnes de Tombouctou qui avaient fui dans les camps de réfugiés, dans les pays limitrophes que sont le Niger, la Burkina Faso, la Mauritanie. Alors, l'histoire du livre, c'est qu'en 98, j'étais amené à visiter la ville de Tombouctou, qui vivaient à l'époque dans une paix relative. En tout cas, je ne m'étais même pas aperçu qu'il y avait des tensions, alors qu'il y a existé évidemment déjà depuis bien longtemps. Et j'avais rencontré de façon privilégiée plutôt une famille en particulier, la famille Amoy, dont Aïcha, qui fut ma muse pendant plusieurs années, parce que je suis retourné souvent, et ses frères, ses cousins, c'est leurs voisins. J'aimais beaucoup le séjourner à Tombouctou, parce que c'est tout à fait le genre d'endroit que j'aime. J'appelle ça le port de Tombouctou, parce que c'est à la fois un grand carrefour du désert, un caravansérail, mais aussi un port sur le fleuve Niger. Et comme beaucoup de ports, ce sont des endroits qui sont très cosmopolites. On a tendance à caricaturer en disant que c'est, bon, à Tombouctou, c'est le Sahara, il y a les Touaregs. Il n'y a pas que les Touaregs, il y a des Arabes, des Maures, des Peuls, des Sonrai, des Arma. Il y a un vrai mélange de populations. Et ces personnes, moi j'ai gardé des relations avec eux, j'en avais lié forcément connaissance après des mois et des mois de séjour là-bas. Et quand a éclaté le dernier conflit, donc c'était en 2012, qui avait été aggravé cette fois-ci par l'intervention d'un nouveau phénomène, le phénomène djihadiste, je me suis inquiété de mes amis, j'arrivais pas à les joindre, et d'autres connaissances m'ont dit que je les retrouverais probablement dans les camps de réfugiés, parce qu'ils avaient tous fui Tombouctou lors de la prise de la ville par les djihadistes. Et effectivement, je les ai retrouvés dans un camp, j'ai retrouvé Aïcha et ses frères dans un camp au Burkina Faso, un camp de réfugiés. Et ils m'ont dit, tu sais, la petite Fatima que tu avais décidée, maintenant elle est grande, maintenant elle a des enfants, mais elle est réfugiée au Niger. Et puis un tel, lui, il est parti se réfugier en Mauritanie. Du coup, je n'étais pas parti pour ça, mais j'ai repris mon sac et je suis allé de camp de réfugiés en camp de réfugiés. Il y en a un certain nombre tout autour des frontières du Mali. Et ça m'a pris 4 ans. Et voilà l'histoire. Et en 2015, a été signée une paix, m'a fait une paix qui est malheureusement qui a des chances de ne pas être durable, mais qui a permis à la plupart d'entre eux de revenir à Tombouctou, ce que j'ai fait avec eux en fin 2015.
Donc ce sera l'objet de la conférence, hein, d'une manière globale, que vous allez donner à Cordes sur Ciel le samedi 11 juin à la maison Fonds-Pérouse. Titouan Lamazou sur CFM avec nous. Titouan, en préparant cette émission, je suis tombé sur plusieurs interviews de vous où les journalistes ont le plaisir de vous présenter comme artiste humaniste. Est-ce que vous voyez comme tel?
Un artiste humaniste, on pourrait dire que c'est presque ça devrait être un pléonasme. Disons que je suis engagé, mais un artiste devrait aussi, tous les artistes sont engagés, ou d'une certaine façon d'ailleurs, parce que je pense qu'une bonne description de l'artiste, c'est d'offrir un nouveau regard sur les choses. Voilà. Et il se trouve que, comme on l'évoquait en début d'entretien, souvent des travaux que je mène, qui sont pas forcément au départ orientés vers un engagement, souvent prennent ce chemin dès les premiers jours. Il se trouve que là j'ai, comme c'était le cas dans Femmes du Monde, c'est le cas pour les nomades, c'était le cas aussi quand j'ai fait des travaux en Europe sur les Roms. Voilà, et je pense que c'est une nature, en tout cas une seconde nature chez moi.
Et pour l'avenir maintenant, c'est plutôt l'environnement, la faune, la flore.
Oh, mon avenir est d'enfin peut-être arriver à concrétiser un très vieux rêve que j'avais annoncé lors de ma victoire dans le Vendée Globe il y a plus de 25 ans maintenant, c'était en 90, c'est de me faire construire un navire atelier, c'est-à-dire de poser mon atelier, parce que dans mes voyages, là quand je pars au Mali, je reviens, j'ai un atelier à Paris pour faire la post-production, les choses comme ça, j'aimerais bien vivre. J'ai du mal à être sédentaire, comme vous avez bien compris, mais j'aimerais bien poser mon sac quelque part, et l'idée de poser mon sac dans un atelier qui bouge, donc un atelier posé sur deux coques et qui se promène un peu partout dans le monde, c'est le projet que je souhaite réaliser maintenant. Et il se trouve que lorsque vous naviguez, même si mon bateau sera les trois quarts du temps à l'ancre ou au mouillage quelque part, on est confronté, on est en tout le temps, on côtoie en permanence une nature que dans notre vie citadine, on a tendance parfois à non pas oublier, mais en tout cas, on n'en est pas entouré, donc c'est pas la première préoccupation. Lorsque vous vivez sur l'eau, et dans des endroits où qui sont ou que je recherche en général, qui sont pas trop peuplés, je pense que le sujet de notre mère nature serait une éventualité pour la suite de mes travaux.
Bardé des souvenirs forcément et encore beaucoup à vous forger, en tout cas je vous le souhaite. Vous serez à Cordes sur Ciel, j'espère qu'on aura le plaisir de discuter en studio peut-être plus longuement de toutes vos pérégrinations à travers la planète. Merci Titouan Lamazou d'avoir été avec nous.
Ben c'est moi, c'était avec plaisir et à très vite alors.
Merci.
CFM, le mag. Le mag.
Voilà, Titouan Lamazou sera à partir de 17h à la Maison Fonpérouse, hein, c'est la mairie de Cordes-sur-Ciel, pour un témoignage sur les peuples saharo-sahéliens qu'il a côtoyé, comme vous l'avez compris, depuis de nombreuses années, et qui se retrouve aujourd'hui au cœur de ce que l'on appelle le conflit dans le nord du Mali. Après la conférence, un apéritif et séance de dédicace à la galerie Trace d'Art qui se trouve au 75 de la rue Raymond VII. Le Mag du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Nous reviendrons sur le salon du livre de cuisine qui a eu lieu le week-end dernier. Ludovic Alabert était complètement immergé dans le salon et il a ramené un chouette reportage. Rendez-vous demain pour écouter ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de CFM. Ciao.